Je vais commencer par simplement préciser que parmi nous aujourd'hui, il y a des personnes qui vont venir au concert. Ce sera la Philharmonie de Paris, ce sera le lundi 12 juin à 20h. Et puis il y a des personnes qui ne vont pas aller au concert, qui profitent uniquement de la conférence. Alors je vous donnerai des liens sur Internet pour pouvoir ensuite écouter ces œuvres, bien sûr, en entier. Notre programme musical, aujourd'hui, nous allons parler et écouter, bien sûr, de nombreux extraits musicaux commentés du concerto pour piano numéro 5 de Beethoven, dit l'Empereur. Et ensuite, nous nous intéresserons à la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. Voilà notre programme musical. Je vous parle 2 petites secondes des interprètes qui joueront pour nous ce concert, pour ceux qui viendront au concert. Ce sera l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Tugan Sokiev, et le pianiste sera Rudolf Buchbinder. C'est un des grands spécialistes de Beethoven, c'est un monsieur qui a 77 ans, et je me réjouis de pouvoir l'écouter en direct, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de l'entendre jouer en concert, et je suis très très impatient parce que c'est vraiment c'est un excellent pianiste et un grand grand spécialiste de Beethoven. C'est pas un, il est connu dans le monde, dans le monde musical et des musiciens, mais c'est un musicien absolument délicieux. On lui a confié les concerts. Il y a eu des célébrations Beethoven, il y a quelques années, on lui a confié le jeu des 5 concertos pour piano, hein, pour vous dire à quel point on pouvait lui faire confiance et à quel point c'est vraiment un musicien emblématique de ce compositeur. Alors on va s'intéresser aux œuvres. Le principe de ces rencontres, vous les connaissez peut-être, c'est de vous donner des clés d'écoute que vous pourrez appliquer pendant le concert ou pendant que vous écouterez les œuvres pour que vous puissiez entrer dans les œuvres. Et pour cela, pas besoin d'être musicien ou de savoir lire la musique, il suffit d'être un petit peu attentif et de promener ses oreilles. On va écouter des extraits musicaux commentés. Et puis, je vous donnerai, quand ce sera uniquement utile pour l'écoute, je vous donnerai des informations autour de ces compositions, autour de ces œuvres ou des anecdotes. Voilà le programme. On commence, je ne vous en dis pas plus parce qu'on va découvrir les musiques et puis tous les contenus au fur et à mesure. On commence par le concerto pour piano de Beethoven, le 5e, c'est son dernier, il n'en a écrit que 5. Et Beethoven connaît parfaitement cet instrument puisqu'il était pianiste. Même si petit, il avait étudié le violon et l'alto, mais c'est bien avec cet instrument qu'il s'est fait connaître à Vienne. Il a d'abord été pianiste virtuose, reconnu, avant de se faire connaître comme compositeur. Alors, ce concerto pour piano, il est créé en 1811. 1811, on est au tout début du 19e siècle. Beethoven a 41 ans, nous sommes à Leipzig, et ce n'est pas lui qui va tenir la partie de piano, même si, comme je vous l'ai dit, il est excellent pianiste, tout simplement parce que sa surdité l'empêche à présent de pouvoir se produire en soliste. C'est un de ses élèves, puisqu'il a donné de nombreux cours, qui tiendra la partie de piano, un certain Friedrich Schneider. Avant de vous parler de ce sous-titre que l'on a attribué à ce concerto d'empereur, j'aimerais que l'on écoute le début de ce concerto. On va entrer dans la musique. Pour rappel, un concerto, c'est une composition pour un orchestre et un instrument. Ça peut être un violoncelle, une flûte, un hautbois, une clarinette. Ici, c'est un piano, c'est donc un concerto pour piano. Et l'orchestre et le piano vont tour à tour se parler. Ils vont parfois s'opposer, ils vont parfois se contredire, ils vont parfois se couper la parole. C'est en tout cas ce jeu entre ces deux entités qui fait vraiment toute l'attrait et la saveur de cette forme du concerto. Vous imaginez tous les scénarios possibles. L'organisation, en général, et ça va être le cas ici, elle est en 3 mouvements séparés, avec des caractères qui sont distincts pour pouvoir varier l'écoute. On a un premier mouvement qui est vif, qui cherche à capter l'attention, un mouvement lent, pour bien se différencier, et on va terminer avec un mouvement vif pour terminer avec éclat. La plupart des concertos à l'époque classique et romantique s'organisent de cette façon, donc c'est vraiment des codes d'écriture et cette forme spécifique. Et nous verrons ici justement que dans ce concerto de Beethoven, eh bien, il va jouer avec ce code des 3 mouvements séparés. Je vous en dis plus tout à l'heure. On commence avec ce début du 5e concerto. J'aimerais qu'on l'écoute une première fois et on va revenir dessus juste après. On va écouter certains extraits plusieurs fois. J'aime beaucoup faire ça parce que des fois, en une seule écoute, on n'a pas le temps d'entendre toutes les informations et puis ça permet d'avoir des écoutes différentes à chaque fois. Alors, je vous laisse écouter et puis on revient dessus juste après. Alors, qu'est-ce que l'on vient d'entendre ici? On a entendu de longues phrases qui sont présentées par le piano, et ces phrases sont interrompues par des grands accords de tout l'orchestre. C'est une façon de dire, vous m'entendez bien, voilà qui je suis. C'est une entrée très affirmée qui, j'allais dire, pose son homme, en quelque sorte. On va l'écouter une deuxième fois, et j'aimerais que vous notiez deux choses. D'abord, les accords qui sont présentés par l'orchestre. Alors, ce concerto débute par un accord de l'orchestre. Un accord, c'est plusieurs notes qui sont jouées en même temps. Pensez à un accord joué au piano. Pour ça, le pianiste va poser tous ses doigts en même temps sur le clavier, avec une puissance et force. C'est ça, un accord. Sauf qu'ici, cet accord, il est réparti à l'orchestre. Donc, chaque note va être jouée par un groupe d'instruments différents. Donc, on va entendre ces trois accords à différents moments, qui vont être entrecoupés par l'intervention du piano. Pensez, en écoutant ces trois accords que je vais vous indiquer à chaque fois, aux trois coups de bâton que l'on entend avant une pièce de théâtre pour attirer l'attention. C'est un peu l'idée, ici, d'attirer votre attention. Et donc, entre ces trois accords, on a des interventions du piano. C'est la deuxième chose que j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Et ce piano va jouer comme s'il improvisait. Il s'amuse sur le clavier, sur un tempo rapide, il présente une succession très rapide de notes qui vont de l'aigu vers le grave. On écoute à nouveau ce début, vous allez repérer les trois accords de l'orchestre que je vais vous indiquer, puis le caractère improvisé de ce que présente le piano entre chaque accord. Le piano est très fier et il est très sûr de lui. On écoute à nouveau. Premier accord. Le piano se promène. Puis on va aller ailleurs. Alors cette façon de débuter ce concerto, elle est très étonnante ici, parce que d'habitude dans les autres concertos, eh bien ce passage où le piano semble improviser librement comme cela, il existe bien dans cette forme du concerto, dans ce premier mouvement, mais il est situé plutôt à la fin du mouvement, dans ce que l'on appelle alors la cadence. C'est le moment où le piano prend seul la parole et il montre ce qu'il sait faire sur une idée un petit peu d'improvisation comme celle-ci. Mais ici, cette cadence, ou en tout cas ce passage qui semble improvisé, eh bien, il est au tout début de ce concerto. En plus, ce premier mouvement est exceptionnellement long. Il dure 600 mesures. C'est près de 20 minutes de musique. Le deuxième mouvement, il va durer 10 minutes, et le troisième aussi. Donc on a un premier mouvement très impressionnant. Aucun compositeur avant Beethoven n'avait écrit un premier mouvement d'aussi vaste dimension. Je vous rappelle que nous sommes ici au début du 19e siècle, en 1811, 19e siècle romantique, où les proportions, les durées des œuvres vont commencer à s'élargir, à s'épaissir. Une nouvelle esthétique est en train de se mettre en place. Retenez déjà cela, cette entrée du piano qui semble improvisée, entrecoupée des trois coups de bâton de l'orchestre, ces trois accords. Alors que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, nous allons entendre le premier thème. Alors pour que vous puissiez le repérer, je vous propose d'écouter la fin de cette introduction, et ce sera à vous d'identifier le moment où le thème va entrer. Alors c'est très facile, Beethoven va tout mettre en place pour qu'on l'identifie de façon très claire, ce thème. Il va ralentir le tempo, la musique est jouée moins forte, et ce thème va entrer ensuite. Oui, mais alors ce thème, il est joué par qui? Par le piano ou par l'orchestre? C'est à vous de répondre. Thank you. Voilà, c'est donc bien, pardon, l'orchestre qui présente ce thème. Et pour qu'on puisse bien le retenir, eh bien, Beethoven va faire quelque chose que de très nombreux compositeurs font, eh bien, c'est qu'il va immédiatement le répéter en le faisant passer à différents instruments. J'insiste sur cette notion de répétition en musique, c'est un outil très puissant pour créer des effets, comme nous le verrons un peu plus loin. Pour l'instant, j'aimerais que l'on écoute à nouveau ce thème et puis sa reprise après pour qu'on puisse vraiment bien le retenir. Et j'aimerais vous faire travailler un peu. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme mot sur ce thème pour le qualifier? Si vous deviez mettre un mot ou une expression, quelle impression ce thème vous fait? Quelle impression la musique vous fait ce thème? Est-ce que vous voulez bien réfléchir à un mot? Si vous avez envie, vous l'écrivez dans le chat. Sinon, réfléchissez à cette idée, simplement vous dire, tiens, quand j'entends cette musique, qu'est-ce que ça me fait? Un seul mot? Allons-y et notez qu'il le répète. On répète. Train, il y a de la force, on a entendu des trompettes, on a entendu des timbales, on a entendu un caractère un petit peu militaire, autoritaire, donc voilà, il y a toutes ces notions, on n'est pas dans quelque chose d'intime, de petit, on est dans quelque chose d'impressionnant, d'imposant. Voilà ce que Beethoven a indiqué en toutes lettres dans sa partition. Il a indiqué ceci, c'est vraiment écrit dans la partition. Chant de triomphe pour le combat. Attaque. Victoire. Voilà les trois mots qu'il a écrits dans sa partition. Alors pourquoi est-ce qu'il a écrit ces mots-là? Eh bien, voici l'histoire. Au début de l'année 1809, Beethoven vit à Vienne. Il y est arrivé en 1792, il a alors 17 ans, il est alors reconnu comme pianiste et compositeur, il est célèbre et il est admis dans les grandes maisons de l'aristocratie. À cette époque-là, l'Autriche des Habsbourg est un pays fort et impérial, mais depuis des mois, la guerre fait rage en Europe et les troupes françaises de Napoléon sont partout. En avril 1809, les Français sont en route pour l'Autriche. Les Autrichiens ont déjà été envahis par les troupes de Napoléon en 1805, mais cette fois-ci, ils sont sûrs qu'ils vont gagner et à Vienne, tout le monde est très optimiste. Début mai 1809, les Français approchent de Vienne. Le 4, l'empereur d'Autriche et la famille impériale partent à toute vitesse pour se réfugier loin de la capitale. L'archiduc Maximilien, lui, reste à Vienne pour défendre la ville avec une partie de l'armée. Les troupes de Napoléon arrivent jusqu'à la banlieue de Vienne. Le 9 mai, ils encerclent la ville et ses très solides remparts. Napoléon adresse un ultimatum à Maximilien. S'il se rend, les Français entreront dans la ville calmement en respectant les bâtiments. Sinon, ils vont leur envoyer des obus pour l'incendier. Maximilien refuse de se rendre et dans la nuit du 11 au 12 mai, Napoléon va faire envoyer 1200 obus. Mais il n'y a pas trop de dégâts, simplement quelques maisons qui sont abîmées, ce sont surtout des toitures qui brûlent. Beethoven, lui, à ce moment-là, s'est réfugié dans la cave de la maison de son frère, pas très loin de la cathédrale Saint-Étienne, au centre de Vienne. Il souffre des oreilles, vous savez, ces problèmes de surdité. Il a dû mettre des coussins pour supporter le bruit de la canonnade. Et le 12 mai, les Viennois capitulent, les Français entrent dans la ville, et à ce moment-là, Napoléon écrit à Joséphine ceci, je cite, « Je t'expédie un messager pour t'apprendre que je suis maître de Vienne et que tout va parfaitement. Ma santé est fort bonne. » Dans l'année 1809, la paix sera signée, mais Beethoven vit très mal cette période de guerre, et c'est à ce moment-là qu'il compose ce concerto numéro 5, et c'est ce qui explique les mots qu'il a notés dans sa partition dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, « Chant de triomphe pour le combat, attaque, victoire ». Alors ce concerto, il est surnommé « Empereur », mais cela n'a rien à voir avec Napoléon. Ce concerto, il est dédié à l'archiduc Rodolphe en remerciement de son soutien financier. Beethoven, qui est un pianiste et un compositeur reconnu, avait menacé de quitter Vienne. Et un certain Jérôme Bonaparte, le frère d'eux, voulait le faire venir comme maître de chapelle. Alors Beethoven va clamer alors partout à qui veut l'entendre qu'il va accepter ce poste et qu'il va partir de Vienne puisque personne ne fait rien pour le retenir dans cette ville. Mais c'est sans compter sur ses plus fidèles amis, la comtesse Erdédi, qui va remuer toute la ville et qui va trouver finalement un accord avec trois mécènes. Ce sera l'archiduc Rodolphe, les princes Lobkowski et Kinski, qui vont verser à Beethoven une rente annuelle. Et c'est une des façons pour Beethoven de les remercier, eh bien, c'est de leur dédier certaines de ses compositions, d'où la dédicace de ce cinquième concerto pour piano à l'archiduc Rodolphe. Et cette anecdote de cette dédicace, elle nous parle aussi du statut du compositeur. En ce début de la période romantique, un compositeur vit de ses mécènes. Beethoven est un des premiers compositeurs indépendants, il n'est plus attaché à une cour ou au service d'un prince. Mais alors ce titre, empereur, d'où vient-il? Eh bien, il semble en définitive que cet intitulé lui a été donné par un compositeur allemand installé en Grande-Bretagne et un ami de Beethoven, un certain Kramer. Il était également facteur de piano et éditeur de musique. Il a certainement voulu souligner que le dernier concerto de Beethoven était le plus grand, l'empereur, le plus important, le plus impressionnant. Beethoven lui-même a fait savoir à ses éditeurs, dans une lettre du 21 août 1812, qu'il n'admettait qu'un seul titre. Le concerto sera dédié à l'archiduc Rodolphe, et pour titre, il n'y a rien que Grand Concerto dédié à Son Altesse Impériale d'Autriche Rodolphe. C'est tout. Donc ce titre de l'empereur, il faut toujours se méfier des titres, parce que des fois ils sont donnés par les compositeurs, mais des fois ils sont donnés après. C'est vraiment le cas ici. Donc ce titre est resté parce que il figure certainement quelque chose d'assez impérial dans la musique elle-même. Et comme on l'a entendu dans la partition et dans la présentation de ce premier thème, impérial, imposant, fier de lui que l'on vient d'entendre, on comprend facilement que l'on ait pu vouloir attribuer ce titre d'empereur à ce concerto, mais oubliez que c'est pas du tout en hommage à Napoléon. On revient à notre premier mouvement. Alors dans un concerto, surtout à l'époque classique ou romantique, un premier mouvement de concerto s'organise autour de deux thèmes. Et pour créer des effets, eh bien, on va les différencier en jouant sur leur caractère. Le premier, vous l'avez entendu, il était puissant, imposant, exaltant, chevauché, comme vous l'avez signalé dans le chat. C'est sa caractéristique. Eh bien, le deuxième, il va falloir qu'il soit très différent. Alors, comme pour le premier thème, il va le présenter une première fois, et tout de suite après, il va le répéter. La répétition en musique, très important. Comme tout à l'heure, vous mettez un petit mot dans le chat pour le définir, ce deuxième thème. Allons-y. Ici. Voilà, donc le caractère complètement différent. Effectivement, il est plus léger, il est assez dansant, il est plus apaisé aussi. Il faut bien créer des effets et le différencier avec le premier thème. Vous voyez, c'est assez facile de pouvoir définir un thème et on voit bien, en tout cas, leur opposition. C'est ce que je voulais vous montrer. En avant, oui, il y a un petit côté, il se laisse pas faire non plus, ce thème-là. Pour les musiciens parmi nous, ce deuxième thème, il est ici en mineur. Le premier était en majeur. Autre extrait que je voulais vous faire entendre, c'est un extrait qui est un petit peu plus long dans ce premier mouvement, avec un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup toujours faire et qui consiste à dissocier son écoute et de pas toujours écouter ce qu'il y a de plus évident. Alors, dans le passage que je vais vous faire écouter, qu'on va écouter tout de suite deux fois, je vous le dis tout de suite, j'aimerais que vous cherchiez à écouter la note qui tient, c'est-à-dire celle qui ne bouge pas, enfin pas trop. C'est une note qui va être tenue et qui va bouger un tout petit peu ensuite. Mais j'aimerais surtout que vous tentiez d'oublier le piano qui va être au-dessus, qui va être très présent, pour vous essayer d'écouter cette note qui est au-dessous et qui tient et qui est tenue. Alors pourquoi est-ce que je vous propose ça? Dans quel but? Vous allez entendre, c'est un passage qui est extrêmement doux, extrêmement apaisé, très calme. Et cette impression, elle est due en partie grâce à ces longues notes tenues par l'orchestre. Ce sont elles qui participent pleinement à ce qui est alors en cours. Et puis, une fois que ce passage assez court va être passé, tout de suite après, Beethoven va partir ailleurs avec un motif militaire. Et peu après, il va revenir à un passage plus calme. Vous pouvez noter également la rapidité avec laquelle Beethoven nous fait passer d'un état à un autre. Il ne nous laisse pas tranquille. Il veut nous attraper par les oreilles et créer des effets. On écoute ce passage une première fois. Attrapez, oubliez le piano qui est au-dessus. Restez avec les notes dessus, je vais vous les indiquer. Et écoutez le passage militaire qui vient de façon assez abrupte et le passage calme ensuite. Allons-y. On réécoutera une deuxième fois après. Ici, note tenue. Oubliez piano. Note tenue. Attention. Comment les ambiances, de quelle façon il arrive à enchaîner les ambiances de façon différente. Vous avez pu entendre un peu les notes tenues. On va le refaire. Notez que quand vous faites ça, ça ne vous empêche pas d'écouter le reste. Hein. C'est, bien sûr, on est attiré par le piano qui est au-dessus, qui fait des très jolies choses. Mais pensez-y globalement pendant vos écoutes à promener votre oreille. Décidez d'écouter quelque chose, surtout quand c'est plutôt calme. Essayez d'aller vers le bas et vous allez entendre de toute façon ce qui est... dessus. Et puis, autre clé d'écoute, on réécoute ? Allez, on réécoute une fois ce passage. Faut tendre un petit peu l'oreille. Ici. Là. Change de note. Ça ne bouge pas en dessous. Voilà, pensez à promener vos oreilles pendant que vous écoutez la musique, de ne pas toujours rester avec ce qui est de plus évident. Autre clé d'écoute importante et à utiliser aussi pour toutes les musiques que vous allez écouter, vous allez noter ici dans le passage que l'on va entendre la façon dont il va nous faire patienter et jouer avec nos oreilles. On a bien à présent dans l'oreille hein, les deux thèmes principaux, alors il va s'amuser à nous les présenter à nouveau sur des formes différentes. On revient au premier thème. Je vous le refais écouter une première fois pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Vous rappelez, c'était ce thème un peu impérieux, allant, celui-ci. Vous l'avez bien ? Alors, on va écouter dans l'extrait suivant ce que Beethoven, avec ce thème en fait, écoutez comme il va le faire désirer, comme il va retarder le moment où il veut nous le faire entendre. Ça, c'est un grand classique des compositeurs. Allons-y. Et la suite ? Ah, peut-être en bas ? Non ? Toujours pas ? Ah ! Ah ! Thank you. qu'il est là. Voilà, vous avez entendu près d'une minute trente avant de nous faire entendre le retour de ce thème que l'on attend, et on le connaît puisqu'on l'a déjà entendu de nombreuses fois depuis le début, on l'a parfaitement dans l'oreille, et il tend cette minute, donc ça crée une tension très importante, et là il s'amuse vraiment avec nous. J'aimerais qu'on réécoute le début de cet extrait où il nous fait patienter, où il nous frustre, parce que j'aimerais vous faire entendre le moment où Beethoven met tout en place, et il nous fait entendre simplement la première note de ce thème, on se dit ça y est, ça va partir, et en fait non, c'est le piano qui prend la parole et qui va encore étirer le temps avant de nous le proposer bien plus loin. Il joue avec vraiment ce principe de la frustration. On réécoute, je vais vous faire entendre comme on entend la première note, mais il joue que celle-ci, puis ah, il nous laisse tout seul. Prépare son effet. Attention, on se dit là, c'est bon. Et là, on attend. Là, tout est prêt pour qu'on puisse entendre le motif. Voilà ce qu'il fait à la place. Patienter ses auditeurs pendant près d'une minute et demie. Hein, donc ça, vous avez bien compris, c'est cette façon d'étirer le temps. C'est aussi une façon de développer un thème, hein, de le faire désirer, de le faire patienter, de l'étirer. Vous pouvez retenir pour ce premier mouvement une entrée comme au théâtre, avec les trois coups de l'orchestre. Un piano qui semble improvisé au départ, qui rappelle la cadence qui, normalement, on trouve à la fin du premier mouvement. Les deux thèmes de caractère opposés qu'on a entendus, un premier extrêmement fier et un autre un peu plus tenu. Un peu plus calme, un peu plus apaisé. Un concerto dit empereur par une volonté qui n'est pas une volonté de Beethoven de donner ce titre, c'est pas lui qui l'a choisi, ce n'est pas un hommage à Napoléon, et cette composition est dédiée à son mécène. Et puis sa façon de jouer avec nos oreilles, en étirant le temps comme on vient de l'entendre, ou tout à l'heure comme on l'a entendu, amusez-vous à dissocier votre écoute. Notez également que l'orchestre joue ici les premiers rôles, on a parfois qualifié ce concerto de symphonie avec piano tellement l'orchestre est présent, il n'est pas là, hein, pour s'éclipser derrière le piano ou pour simplement accompagner ou mettre en valeur l'instrument, il est vraiment là, tout à fait présent, complètement puissant. Deuxième mouvement, on a eu un mouvement rapide, eh bien voici un mouvement lent, on alterne, on crée des effets. Nous sommes dans une organisation classique d'un concerto. On va entendre ici une longue phrase, comme un choral long et méditatif, qui va être présenté par l'orchestre seul. On a alors l'impression d'une grande simplicité, ce qui est toujours très difficile à réaliser en musique. Quand on entend une musique et qu'on a une impression d'évidence ou de facilité, dites-vous toujours que c'est très compliqué de faire simple. Alors j'aimerais attirer votre écoute ici sur les silences et sur sa façon toute personnelle de prendre son temps pour poser les choses. Le piano lui va entrer ensuite, et là encore, juste avant l'entrée du piano, eh bien prenez le temps d'écouter le silence qui précède, je vous l'indiquerai. Et quand le piano va déployer son chant, tout comme tout à l'heure, eh bien écoutez les longues notes tenues dessous qui le soutiennent. Soyez curieux et pensez toujours à promener vos oreilles, vous allez entendre plein de choses en plus, et surtout avoir des sensations et des émotions plus fortes et plus puissantes. Donc, si on résume, on a d'abord l'orchestre, on écoute les silences et la façon de poser les notes. Puis le silence qui précède l'entrée du piano. Et une fois que le piano est en place, eh bien, on promène ses oreilles, on y va, je vous guide. Le piano va déployer sa ligne mélodique pendant que l'orchestre va ponctuer sobrement son discours par quelques accords et quelques notes dessous que je vous indiquerai. Allons-y avec ce deuxième mouvement du concerto L'Empereur. Tempo très lent. Attention les silences. Ça, c'est une information que vous pouvez garder quand vous allez réécouter ce mouvement lent. Restez avec le dessous, ce qui a le joli tapis qui permet d'installer cette ambiance tout à fait particulière, très apaisée ici. Dans ce que l'on vient d'entendre, j'aimerais revenir sur un point particulier d'écriture musicale, mais qui est très puissante. C'est ce que l'on appelle une marche harmonique. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un terme technique qui dit simplement, vous prenez un motif assez court et vous le faites entendre tout de suite après sur la note qui suit, et vous le répétez encore sur la note qui suit, etc. Vous pouvez aussi le faire en descendant. Dans notre cas, cette marche harmonique, ce motif, il va être repris deux fois en montant à chaque fois d'un cran. C'est ça une marche harmonique, une marche harmonique. Ça crée un effet, ça crée une tension efficace, et c'est souvent des moments qui mettent un petit peu les poils, qui sont particulièrement efficaces en termes d'effet, puisqu'on a quelque chose de connu, qu'on répète un cran au-dessus, qu'on répète encore un cran au-dessus, donc voilà, ça crée une espèce d'inspiration comme ça, une tension qui est assez puissante. Je vais vous faire écouter ce passage particulier, peut-être deux fois de suite pour que vous puissiez bien l'entendre, ce qu'on en appelle une marche harmonique, est une technique d'écriture qu'on trouve très souvent. Première fois ici. Entendre une autre quatre fois. Donc, on a la présentation du motif, on monte d'un cran une fois et on monte d'un cran une deuxième fois. On pourrait continuer comme ça, hein, ça serait complètement très efficace. Il a décidé de s'arrêter au bout de la deuxième fois. On réécoute cette marche harmonique. Première fois. Je monte. C'est une marche harmonique. Pour ceux qui aiment Michel Legrand, le compositeur, c'est un grand, grand amateur des marches harmoniques dans sa musique. Vous voyez, on a un thème qu'il va répéter et qu'il fait monter ou qu'il fait descendre. Il aime beaucoup, beaucoup ça. Toute la musique, pas toute, mais une grande partie de la musique de Michel Legrand, toutes ces magnifiques chansons reposent sur ce principe des marches harmoniques qui sont très puissantes en termes d'effet. Autre exemple et autre jeu d'écoute, toujours dans ce deuxième mouvement, vous allez entendre des trilles qui sont présentées par le piano. Alors des trilles, qu'est-ce que c'est ? Les trilles, vous savez, c'est une façon de se faire succéder deux notes de façon très rapide. Ça crée un effet de vibration très puissante dans l'air. Je voudrais que vous notiez ici la lente montée, la lente progression de ces trilles. Et comme ça crée une tension, on sent bien que Beethoven veut nous emmener quelque part. Les tensions et les détentes dans le discours musical sont très importants. C'est ainsi que le temps musical s'organise. Et le fait d'en prendre conscience nous aide simplement à nous connecter à ce que l'on entend. Une fois que nous serons au bout de ces trilles du piano, celui-ci va présenter un thème. Et j'aimerais là encore que vous écoutiez non pas la main droite, mais la main gauche. Alors c'est très facile pour l'entendre parce qu'elle joue trois temps que je vais vous indiquer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Calez-vous sur ces trois temps et vous entendrez parfaitement la main droite et sa belle ligne mélodique. On y va, on suit ces trilles, on note l'effet de tension et de vibration très puissante, et quand le thème se déploie, on passe à la main gauche pour suivre ces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Petit exercice d'écoute pour promener vos oreilles. On y va ? Allons-y. J'accélère. Et la tension que ça crée, où va-t-il aller ? Vous avez pu profiter pleinement des trois temps qui sont au-dessus, des thèmes. On sent qu'il y a des clarinettes qui passent, des hautbois en haut. Promenez vos oreilles, vous allez entendre beaucoup plus de choses, surtout dans les mouvements lents, puisqu'on a le temps de le faire. Et puis, il y a une particularité. À la fin de ce beau mouvement lent, je vous fais écouter la fin, et puis on revient dessus juste après. On est à la fin du mouvement. Thank you. ça, c'est la fin du mouvement. Et qu'est-ce qui se passe après? On entend ceci. Alors, deux informations. Vous dire qu'il n'y a pas de pause entre le fin du mouvement lent et le début du troisième mouvement. Il n'y a pas tant de silence, il n'y a pas tant de pause entre le mouvement lent et le mouvement rapide. Ils s'enchaînent, vous pouvez déjà retenir ça. Et puis ce thème très allant qui débute le troisième mouvement, eh bien on l'a déjà entendu en version lente à la fin du deuxième. On le réécoute. Voici à nouveau le début du troisième mouvement avec ce thème. Eh bien, ce thème-là, il est entendu en version très étirée à la fin du deuxième mouvement. Écoutez-le. Voilà, il est exposé tout de suite après en version beaucoup plus rapide, ce qui permet de faire le lien entre ces deux mouvements sans s'interrompre. Alors ce thème du troisième mouvement, je vais insister un peu dessus parce qu'il va servir de refrain dans ce troisième mouvement, puisque c'est un mouvement qui s'organise en une forme que l'on dit rondo. Vous connaissez forcément cette forme, c'est une façon d'organiser le temps musical, mais c'est la forme couplet-refrain, c'est les chansons pour enfants, avec ce refrain qui devient tout le temps, qui revient tout le temps. Notre refrain, eh bien, ça va être ce thème que je vous propose d'écouter à nouveau et plus longuement afin que vous puissiez vraiment le garder en tête. Il va être présenté par le piano seul d'abord et puis devinez la suite qui va le reprendre juste après. On l'écoute ? Piano ? Ce thème, on va le retrouver tout au long de ce mouvement qui dure, je vous l'ai dit, à peu près 10 minutes. Alors bien sûr, ce ne sera pas toujours de la même façon, puisque sinon ce serait un peu lassant. On va écouter un exemple pour terminer avec ce concerto de présentation de ce thème. Dans l'exemple précédent, on avait donc d'abord le piano qui présente le thème, puis l'orchestre. Eh bien ici, ils vont se partager le thème. Le piano commence et l'orchestre continue, puis le piano reprend, mais de façon beaucoup plus serrée. Avant cet échange, c'est le piano qui a la parole et j'aimerais vous faire écouter là encore comment Beethoven nous fait patienter. C'est toujours très important d'écouter les moments de transition, comment il étire le temps. Nous sommes alors littéralement suspendus aux doigts du pianiste pour qu'il arrive enfin là où il veut nous emmener, c'est-à-dire à ce retour du thème très dansant que l'on a déjà entendu de nombreuses fois. C'est pour ça que c'est utile de le faire répéter, puisqu'après on le désire, notre cerveau l'a imprimé et c'est qu'il va revenir et on l'attend et de jouer avec, c'est très puissant. On est ici vers la fin du troisième mouvement, on écoute ? Allons-y. voilà pour ces deuxième et troisième mouvements du concerto de Beethoven. Vous pouvez retenir pour le deuxième mouvement, le mouvement lent, les silences à l'orchestre et avant l'entrée du piano, très puissant, très important à entendre. Pensez à promener votre oreille pour retrouver ces notes tenues pendant que le piano intervient. Retrouvez cette marche harmonique, ce principe de monter d'un cran à chaque fois, mais on peut aussi descendre, ici on monte. Et attention à la fin du mouvement avec le thème présenté en version ralentie, vous savez, qui va anticiper sur ce troisième mouvement, qui est une forme rondo, donc couplet-refrain, avec le refrain que l'on a bien identifié, repéré, amusez-vous à repérer les retours de ce thème connu, la façon dont il nous fait patienter, nous fait désirer, et puis écouter les jeux entre le piano et l'orchestre. Voilà pour ce concerto de Beethoven. Avec ce cinquième concerto, eh bien, il va créer le grand concerto symphonique qui va servir de modèle au futur Franz Liszt, Johannes Brahms et tant d'autres musiciens au XIXe siècle. Vous en comprenez maintenant un petit peu plus l'organisation et les effets. On était en 1811 avec Beethoven, on va passer un peu moins de temps avec Mahler, bien sûr, mais c'est quand même évidemment très, très, très intéressant et très important. On était en 1811, nous voici en 1904. On est presque un siècle plus tard avec notre ami Gustav Mahler et sa symphonie numéro 5. C'est une symphonie qui débute comme ceci. Voilà, on a donc eu, au départ, on a entendu de façon très claire des appels aux trompettes, puis l'orchestre qui entre sur un rythme de marche lente, une musique de procession très marquée, très grave. On est ici dans une marche funèbre. Alors pourquoi Mahler débute-t-il sa cinquième symphonie de cette façon? Alors la réponse est peut-être, j'ai bien dit peut-être, à chercher du côté de ce qu'il vit à ce moment-là. Voici l'histoire. Mahler est un compositeur, on le sait, mais son activité principale de son vivant, c'est chef d'orchestre et il est très connu. Et le 24 février 1901, dans l'après-midi, ce compositeur, donc ce chef de 40 ans, dirige l'orchestre du Philharmonique de Vienne dans la cinquième de Bruckner. Et le soir, il dirige un deuxième concert, c'est un concert de gala autour de la flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de Vienne. Et plus tard, cette même nuit du 24 février 1901, il va se réveiller dans une mare de sang. Il est en train de faire une hémorragie digestive. Un médecin vient rapidement et heureusement, car à 30 minutes près, il n'aurait pas survécu. Il va être opéré une première fois, il arrête bien sûr toutes ses activités, il reste en convalescence à l'hôpital de Vienne, puis il va rester chez lui, il souffre beaucoup, il est très déprimé, et il sera opéré une seconde fois en juin. Il a réellement cru mourir. Il dira ceci, « Vous savez, la nuit dernière, j'ai failli mourir. Quand j'ai vu les visages des deux médecins, j'ai bien cru que ma dernière heure était venue. Alors que je planais entre la vie et la mort, je me suis demandé s'il ne valait pas mieux en finir tout de suite, puisque tout le monde doit en venir à cela à la fin. » Tout cet épisode l'a évidemment profondément marqué, et en juillet de cette même année 1901, il débute la composition de sa cinquième symphonie, qui débute par une marche funèbre. Ceci explique peut-être cela, mais il faut toujours rester extrêmement prudent quant aux sources d'inspiration des compositeurs quand on ne les connaît pas. Ce qui est certain, c'est que ces appels de trompette, entendus au départ, sont une vraie clé d'écoute pour tout ce premier mouvement. Elles vont revenir régulièrement, toutes seules, mais également à des moments où l'orchestre sera présent, il sera à pleine puissance, on les entendra quand même, et ce sont elles qui vont conclure ce premier mouvement. Écoutez comme ici, elles servent de transition entre des parties, et puis écoutez plus particulièrement le rythme qu'elles proposent. Est-ce que ce rythme proposé aux trompettes ne vous dit pas quelque chose? On l'écoute et on en parle après. Papapapam, papapapam, c'est ça le rythme qu'il utilise. Ce rythme, c'est un clin d'œil au compositeur que l'on a entendu juste avant. C'est le début de la cinquième de Beethoven. Absolument, c'est absolument ce thème-là. On le reconnaît bien, mais tant que je vous l'ai indiqué. Vous le reconnaissez bien, même si c'est pas papapapam, on n'a pas cette note-là, mais on a le rythme. Donc c'est clairement une référence à la cinquième de Beethoven. C'est son thème du destin, ce thème. Donc avec ce papapapam, oui, il y en a quatre. Papapapam, 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 il y en a quatre. Mais c'est le même rythme, mais c'est la mélodie qui était différente, c'est ce que je voulais dire. Donc, ce thème du destin, on comprend mieux avec le contexte que je vous ai raconté à propos de cette symphonie, cette cinquième, on comprend pourquoi Mahler a repris peut-être ces motifs tout beethoveniens, très puissants, simples et encore une fois, très efficaces. Quelques mots sur le plan global de cette symphonie qui dure 1h10 et qui commence avec une marche funèbre et qui va aller peu à peu vers la lumière et la légèreté. Elle présente 5 mouvements distincts, séparés par des silences. Vous êtes peut-être habitué à des symphonies en 4 mouvements, mais non, c'était à l'époque classique. Ici, on est au tout début du XXe siècle, donc les symphonies prennent de plus en plus d'ampleur, comme on l'a dit, l'esthétique est différente et donc on peut avoir plus de mouvements. Donc on a 5 mouvements distincts qui sont séparés par des silences, mais ces 5 mouvements distincts, on peut les regrouper. Je m'explique. On peut regrouper les 2 premiers mouvements qui ont en commun un caractère sombre dans une première partie. La seconde partie va comprendre le 3e mouvement qui est tout seul, qui est un scherzo. Et enfin, une 3e partie qui va comprendre les mouvements 4 et 5. Alors pour résumer, on a bien 5 mouvements, mais que l'on peut organiser en 3 parties. Les mouvements 1 et 2, première partie. Le mouvement 3, deuxième partie. Et mouvements 4 et 5, troisième partie. Nous avons entendu la marche funèbre avec l'appel des trompettes. Elle est suivie par un autre mouvement sombre où on va retrouver encore des trompettes. Donc pendant les 2 premiers mouvements qui forment la première partie, je vous propose de repérer les trompettes et ce rythme et de vérifier l'effet à chaque fois que cela a sur vous. Autre point à repérer, à la fin de ce 2e mouvement, Gustav Mahler va indiquer en toute tête dans sa partition « prendre une grande pause ici ». Prendre une grande pause ici. Il faut donc qu'on prenne le temps de respirer. Donc, pendant le concert, soyez attentifs à ce moment-là. Est-ce que le chef, à la fin du 2e mouvement, va marquer un temps de silence plus conséquent? C'est ce qui est demandé dans la partition. Donc, ça clôture, si vous voulez, cette première partie avec ces 2 premiers mouvements. Et puis, on arrive au 3e mouvement, qui forme donc la 2e partie. Et ce mouvement, c'est un scherzo, qui dure près de 20 minutes. Le terme scherzo, il signifie littéralement plaisanterie. Il indique ici un caractère plaisant et divertissant et fait absolument contraste avec les 2 mouvements précédents et sert de moment de bascule, de pivot émotionnel entre la première grande partie et ce qui viendra ensuite. Nous sommes ici à 3 temps, c'est une sorte d'ode à la vie viennoise. On va avoir un thème simple au relent folklorique et j'aimerais vous donner une clé d'écoute pour ce mouvement. Cette clé d'écoute, je l'appelle la presque valse. La presque valse. Ici et là, dans ce mouvement clairement plus joyeux que le précédent, on a envie de valser, ou en tout cas, Mahler nous en donne la structure, mais tout en la détournant, ou en tout cas en jouant avec. Dans une valse, vous le savez, on a un premier temps fort, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. On revient dessus, il est très puissant ce premier temps, et permet de vraiment lancer le mouvement de danse, les danseurs le savent bien. Eh bien, Mahler, lui, va jouer de façon très subtile, très délicate avec ces 3 temps. On va écouter un extrait, je vais battre la mesure, suivez les inflexions, on aura presque envie qu'il nous donne une valse bien carrée, bien claire, on aura envie de quelque chose de très carré, mais il va jouer en faisant des subtils décalages ou en changeant un peu les accents, il va jouer avec nos sensations, nos oreilles, et c'est absolument délicieux. Pourquoi? Parce que c'est frustrant, parce qu'on voudrait vraiment quelque chose de très carré, et voilà pourquoi je vous propose de mettre ce terme de presque valse qu'il nous fait désirer, et ce serait une clé que vous pouvez utiliser pour ce mouvement. Allons-y. décalé. Voilà pour ce passage de la presque valse que vous pouvez vous amuser à retrouver dans tout ce mouvement, le plus long de la symphonie, hein, près de 20 minutes, avec ses trois temps. Et vous allez voir, tous ces décalages sont absolument délicieux et tous les jeux qu'il va pouvoir proposer sont très très riches. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé de la santé de notre compositeur, que le premier mouvement et le deuxième étaient peut-être un souvenir de son hémorragie digestive et de toutes ses conséquences. Eh bien malheur, quand il débute la composition de sa cinquième symphonie, il commence pas par le premier mouvement, sa marche funèbre, mais il commence par ce scherzo, qui a un caractère joyeux, dansant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, comme je vous l'ai dit, toujours se méfier des anecdotes autour des œuvres ou de ce que l'on peut projeter en fonction des informations que l'on a. Malheur, avec son hémorragie intestinale, ne s'attelle pas au mouvement le plus triste, sa marche funèbre, mais par ce scherzo. D'accord ? Voilà. Donc il faut toujours mettre en perspective et faire attention à ce que l'on projette sur la musique. Il me semble toujours plus prudent de rester avec ce que l'on pense, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. La musique appartient à ceux qui l'écoutent. Gardez cette clé d'écoute pour ce scherzo, cette presque valse. On arrive à la troisième partie de cette symphonie qui comprend donc les deux derniers mouvements. D'abord ce quatrième mouvement qui est le plus célèbre de cette symphonie, mais aussi certainement de toutes les symphonies de Gustav Mahler. C'est son adagietto qui dure plus de 10 minutes. Alors adagio, ça signifie un mouvement lent, une allure entre le lent et l'andante en marchant. Ici on a un adagietto, un petit adagio. Et Mahler précise « sehr langsam », c'est-à-dire « très lent ». C'est un mouvement de 12 minutes qui a été rendu célèbre par le film « Mort à Venise », si vous l'avez vu, de Visconti. C'est avec ce film, avec cette belle musique que le film se termine. Et c'est là un peu toute la puissance des images qui imposent une vision. Car cette musique, elle est aujourd'hui intimement liée à ce film. Et ce film nous parle de mort, de désolation, de déchéance et d'une profonde tristesse. Or, cette musique... Eh bien, c'est pas du tout cela. Cette musique, c'est une déclaration d'amour. Souvenez-vous tout à l'heure, quand nous avons parlé de cette journée de février 1901, où il a ses deux concerts et son hémorragie dans la nuit, eh bien, pendant le concert du soir, dans la salle, il y a une certaine Alma, celle qui deviendra sa femme, et elle dira ceci après l'avoir vue diriger. Ce visage, ses joues pâles, ses yeux comme des charbons ardents, cet homme ne peut pas continuer comme cela. Eh bien, cet adagio composé de Gustav Mahler, ils vont se rencontrer un peu plus tard, c'est sa déclaration d'amour à Alma. Donc, pour toutes ceux et celles qui ont vu Mort à Venise, essayez d'enlever de vos imaginaires cette musique et le film Mort à Venise et envisagez-la à présent comme une déclaration d'amour. On le sait puisque Gustav Mahler a marqué sur la partition un petit poème destiné à Alma. Donc, on est sûr, cette fois-ci, on n'interprète pas que c'est une déclaration d'amour pour Alma. Mais c'est intéressant, parce que ça c'est l'information que l'on a. À présent, finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la musique appartient à ceux qui l'écoutent. Imaginez ce que vous voulez dessus, d'accord ? Si vous voulez imaginer autre chose, bien sûr, on est complètement libre de le faire, ou si vous voulez simplement profiter de la musique, c'est tout à fait possible ici. Deux clés d'écoute que je vous propose pour ce mouvement. Ce que j'aimerais vous indiquer, qui fonctionne pendant tout ce mouvement, c'est cette façon unique d'étirer les notes et de jouer sur les tensions qui ne se résolvent jamais. Pour expliquer cela, pour les musiciens parmi nous, il y a ici dans cette partition une succession de retards et d'appoggiatures. C'est une technique d'écriture qui a pour effet de créer sans cesse un décalage entre le moment où l'on s'attend à ce que la musique finisse et qui finalement ne se termine pas et repart. Ça, c'est l'effet produit et le terme technique, c'est retard ou appoggiature. Pour mieux l'entendre, on va écouter et je vais commenter... avec des termes comme tension, détente, ce qui se passe réellement dans la musique, ensuite que cela vous mène à Venise ou dans une histoire d'amour, ou autre part, cela vous appartient. Deuxième clé d'écoute, il n'y a ici que des cordes dans tout ce mouvement. Il n'y a pas de trompette, pas de hautbois, pas de clarinette, d'où cet effet très particulier des seules cordes entendues. N'oubliez pas ça. Et quand je dis les cordes, il y a aussi la harpe qui se détache tout particulièrement et que l'on entend. Portez votre écoute sur elle aussi. Donc, les tensions et les détentes qui s'entremêlent et cette impression de ne jamais atterrir quelque part, et puis les harpes qui ponctuent de façon très délicate cette présence des cordes, uniquement des cordes, hein, que des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, pendant tout ce mouvement de 12 minutes, qui est vraiment un des sommets d'écriture de Mahler. Allons-y pour un court extrait. Tension, détente. Je pose et je repars. Et j'étire. Et je me pose. Ce très beau quatrième mouvement, l'Adagietto, donc 12 minutes de musique, pareil, prenez-vous un moment pour profiter pleinement de tout ça et de vraiment sentir tout cet étirement du temps, vous pouvez pratiquement respirer en même temps que les... Enfin, il faut une respiration ample, hein, parce que les thèmes sont larges, et puis amusez-vous à repérer les petites ponctuations de la harpe, c'est un des sommets d'écriture de Mahler. Magnifique, magnifique déclaration d'amour, si vous souhaitez l'envisager de cette façon-là. Il ne nous reste plus que le final de cette symphonie pour terminer. Alors, pour vous dire que le dernier mouvement, eh bien, Gustav Mahler s'est inspiré d'un lied. Alors, un lied, c'est une mélodie accompagnée qu'il avait déjà composée. Et dans ce lied, ça racontait une histoire, c'était une histoire assez amusante. C'était l'histoire d'un concours de chant entre, d'une part, un coucou et un rossignol. Et figurez-vous que ce concours de chant était arbitré par un âne. Donc, on avait trois animaux. Donc, c'est un lied qui est assez léger. Eh bien, Mozart va se servir de ces mélodies. Il fait souvent ça, de s'inspirer de leaders pour les intégrer dans ses compositions. C'est vraiment une de ses marques de compositeur. Donc, il se sert de cette mélodie pour en faire un immense contrepoint dans tout ce cinquième mouvement. Alors, le contrepoint, qu'est-ce que c'est? Le contrepoint, c'est une technique d'écriture. Le maître absolu de cette technique d'écriture dans l'histoire de la musique, c'est Jean-Sébastien Bach. Tous les compositeurs avant lui utilisent, après lui, vont utiliser cette technique. Et pendant sa convalescence, eh bien, Mahler a étudié de très près les partitions de Bach et des maîtres baroques. Et c'est précisément dans ce dernier mouvement qu'il va jouer avec ce contrepoint, tout en l'intégrant déjà à son propre langage musical. Alors, le contrepoint, c'est l'art d'organiser les lignes mélodiques les unes par rapport aux autres. Alors, un exemple, eh bien, une fugue, par exemple, c'est du contrepoint, c'est-à-dire que vous faites entendre une ligne mélodique et peu de temps après qu'elle ait commencé, vous faites entendre la même ligne mélodique mais avec un autre instrument et en décalé. et les lignes vont avancer de cette façon-là. Vous pouvez encore en rajouter une, la même ligne, que vous décalez encore, toc, voilà. Ça, typiquement, c'est du contrepoint, c'est des façons de jouer avec les lignes. Donc, on peut aller comme ça très, très loin. Et tout ça, il faut quand même que ça reste très agréable à l'oreille et que ça sonne très, très bien. On en écoute un exemple avec cette, un exemple de ce mouvement de contrepoint que l'on retrouve donc dans ce dernier mouvement de la cinquième symphonie de Mahler. On a un thème ici. Ici, c'est parti. Une autre ligne. Tout le monde avance. Au milieu, il y en a un qui fait partir. Une autre part en haut. Voilà, c'est des entrées de lignes qui se font de façon décalée. C'est ça le contrepoint et c'est vraiment le point principal d'écriture de tout ce mouvement. Voilà pour cette symphonie de Mahler sur laquelle on a dû passer un petit peu plus rapidement que sur le concerto, mais j'aime bien qu'on prenne le temps de détailler plus en détail l'une des deux. En tout cas, vous avez des clés d'écoute pour les deux compositions. Je vous rappelle pour cette symphonie de Mahler les principaux points. 5 mouvements distincts que l'on peut organiser en 3 grandes parties. Les 2 premiers mouvements avec cette marche funèbre, ces appels de trompettes qui reprennent le rythme de la cinquième de Beethoven. Le scherzo central, une presque valse, amusez-vous à essayer de repérer les temps forts. Puis on arrive dans la troisième et dernière partie qui présente cet adagietto, cette déclaration d'amour à sa femme, où je vous invite à suivre les retards et les appoggiatures, et puis à écouter les ponctuations de la harpe. Et enfin le dernier mouvement avec ce contrepoint. Vous dire que dans le replay que je vous enverrai demain, il y aura la vidéo, il y aura également la version audio pour ceux qui veulent juste écouter et pas forcément voir, parce qu'on peut comme ça l'emmener avec soi. Et je vais vous ajouter également les 2 manuscrits de ces partitions. Les manuscrits, c'est la partition qui est écrite de la main du compositeur. Même si vous ne savez pas lire la musique, ouvrez ces documents juste pour avoir le plaisir de voir des notes qui ont été écrites d'abord par Beethoven et ensuite par Mahler. Vous pourrez regarder les différences, parce qu'on voit tout de suite dans un manuscrit si le compositeur raille beaucoup ou s'il est très appliqué quand il écrit sa musique. Ça dit déjà beaucoup de choses. Et puis c'est quand même intéressant, de ne serait-ce que, même si vous ne savez pas lire la musique, encore une fois, d'aller voir comment c'est écrit, la façon dont vous avez tous vu des partitions de musique imprimées. Regardez des partitions manuscrites de la main du compositeur. Je trouve que c'est quand même toujours assez émouvant à regarder. Donc je vous mettrai ces documents-là. Je vous indiquerai également des versions pour les écouter. La version que l'on a entendue pour la cinquième de Mahler, c'est dirigée par Karajan avec le Philharmonique de Vienne. Donc là, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez écouter la version complète. Et pour le Beethoven, eh bien, j'ai choisi 2 interprètes différents. Pour le premier mouvement, c'était le pianiste Nelson Frère qui jouait sous la direction de Ricardo Chailly. Et pour les mouvements 2 et 3, parce que j'ai trouvé que ces versions me plaisent mieux, c'est la version dirigée par Leonard Bernstein et c'est Christian Zimmermann au piano. Les deux sont de très belles versions. Je vous mets les 2 versions complètes. Ça, vous pourrez même vous amuser si vous le souhaitez. Par exemple, dans le mouvement lent, écoutez le mouvement lent proposé par Nelson Frère au piano ou dirigé par Christian Zimmermann. Voilà pour ces présentations de concerts. Pour les personnes qui viennent au concert, j'aurai l'occasion de vous le redire, le concert est à 20h, donc moi je serai à la Philharmonie à partir de 19h20, c'est moi qui ai vos billets. On a le plaisir d'aller au concert ensemble, et puis après le concert, on ira boire un coup en haut au restaurant de la Philharmonie pour refaire un petit point sur le concert et recueillir vos impressions et savoir ce qu'on en a pensé et de ce qu'on a pu entendre. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant dans le chat ou par mail. Hein, je suis toujours disponible, vous avez toujours mon adresse, elle est partout sur le site d'Écoute Classique. N'hésitez pas, j'ai toujours plaisir à répondre bien sûr à vos questions. C'est toujours intéressant d'avoir des petits retours ou peut-être des petits points qui n'étaient pas clairs ou vous souhaitez enrichir. Je vous souhaite un bon samedi, il est midi et quart. Voilà, on a dépassé un petit peu, mais ça en valait la peine. C'est des œuvres qui sont importantes, hein, ces deux compositions. Alors, il faut quand même prendre le temps de pouvoir les présenter. Voilà, si vous avez des petites questions, je vais rester encore quelques petites minutes, sinon on va continuer notre belle journée de samedi sous le soleil à Paris, en tout cas. Ben, merci Bernard, merci à vous, merci d'être présent et de participer à ces rencontres. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end et puis on se retrouve bientôt. Il y a des conférences gratuites qui vont bientôt arriver, fin juin. Je vous enverrai vous aurez toutes les informations par mail. Bonne journée à tous, bonne journée à toutes, et puis on se retrouve bientôt. Merci, bon week-end. Et puis je vous envoie les liens, hein, de toute façon, pour profiter de cette musique. Merci beaucoup. Alors, il faut que je coupe, c'est ici. Au revoir, bon week-end.